Le message du Christ, sa vie parmi les hommes, sa mort sur la croix, sa résurrection, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a été et tout ce qu'il est, tout cela constitue un appel à la conversion de l'homme, c'est-à-dire au renouvellement et au salut de chaque individu en particulier. Car c'est ce qu'implique le mot « conversion ». Comme le fer soumis à l'action du feu et trempé se convertit en acier, ainsi le Fils de Dieu enjoint les hommes à changer leur manière d'agir et de réagir, leur façon de parler et de penser et même d'espérer, pour agir, réagir, parler et penser comme lui, le Maître. Et cela par le seul moyen possible qu'il propose en ces termes « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». Je ne pense pas qu'il y ait dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, un thème plus urgent, plus souligné que celui de la nécessité d'une conversion de l'individu à la personne du Christ. Cet aspect des Écritures saintes nous oblige à conclure que si le Créateur exige le changement, le renouvellement de sa créature, c'est que cette dernière se trouve dans un état de délabrement qui la rend laide et inacceptable. C'est précisément le diagnostic de Dieu. Et la première condition du salut, c'est d'accepter ce diagnostic, même s'il nous paraît désagréable, même si nous nous sentons bien portants. Car aller persuader un homme de se soigner s'il s'obstine à se croire en bonne santé. Je vous invite à examiner avec moi quelques textes de l'Écriture, parmi les plus expressifs, qui soulignent souvent dans un langage pittoresque et fort la nécessité d'un changement chez l'homme, d'un renouveau, d'une conversion. Je pense tout d'abord à cette déclaration que le Christ fit à un haut dignitaire juif qui était venu le consulter de nuit. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Cette déclaration constitue un des fondements de la religion chrétienne. Ce serait déborder le cadre de notre étude que de commenter le sens profond de ces paroles aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs consacré à ce verset une étude dont le texte vous sera envoyé sur simple demande. Il nous suffit aujourd'hui de noter que la conversion aux yeux de Christ n'est pas une simple modification dans la manière d'envisager la vie, mais une véritable renaissance avec des yeux nouveaux, ouvert aux réalités invisibles, avec des oreilles nouvelles, attentives aux communications divines, avec une nouvelle respiration spirituelle. À ses yeux, l'homme doit être refait. Et cette œuvre n'est possible que dans la mesure où l'homme abdique sa volonté pour se soumettre à la volonté de Dieu. Dans une de ses lettres, l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de la ville d'Éphèse « Il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme » qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Dans ce même contexte, l'apôtre donne une description de cet homme renouvelé dans sa vie et dans ses activités. Parce que vous avez revêtu l'homme nouveau, parce que vous avez renié le vieil homme, vous renoncerez aux mensonges, au vol, à la haine, à toute espèce de méchanceté, et vous marcherez à l'exemple du Christ qui nous a aimés. L'image de l'homme nouveau remplaçant le vieil homme est très exploitée par l'apôtre Paul. Nous venons de citer un passage de sa lettre aux Éphésiens. Dans ses lettres aux Corinthiens, aux Galates et aux Romains, il en parlera encore. Nous citerons trois textes tirés respectivement de ces trois épîtres qui éclaireront pour nous l'identité de cet homme nouveau. D'abord, dans sa lettre aux Corinthiens, il affirme « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Une précision supplémentaire nous est confiée dans la lettre aux Galates. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ici encore, nous retrouvons l'idée d'un renouveau dans l'image d'un vêtement neuf qui recouvre notre vieille nature pour lui donner désormais l'aspect même du Christ, qui est en fait le Christ. Par la foi, par le baptême, bref, par l'obéissance à la volonté de Dieu telle qu'il nous la transmet par le Christ, l'homme qui ressemblait à Adam, Adam de la chute, Adam abîmé par le péché, cet homme-là disparaît pour faire place à une nouvelle créature qui est l'homme divinisé par le Christ, couvert par le Christ. Désormais, sa véritable vie date de sa renaissance. Il ne remonte plus au premier Adam, mais au second Adam. C'est ainsi, en effet, que le Christ est représenté dans les lettres de Paul. Le premier homme, Adam, a précipité les hommes dans les conséquences de son péché. Christ, par sa résurrection, est le chef de file d'une nouvelle génération, celle des rachetés. Il est le dernier Adam. Dans le troisième texte, la lettre aux Romains, l'apôtre Paul va jusqu'au bout de l'image vieil homme, homme nouveau. Au chapitre 6, il explique que par le baptême, l'homme est enseveli avec Christ, lorsqu'il est immergé, et il ressuscite avec lui en émergeant de l'eau, à une vie nouvelle. Il précise que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Or, si nous sommes morts avec Christ, dit-il, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous avons cité tous ces textes pour souligner avec force trois points importants. Premièrement, Dieu considère que l'homme s'est abîmé par le péché sous toutes ses formes. Il doit être remodelé, car il est laid. Deuxièmement, l'homme ne peut être renouvelé que dans la mesure où il accepte de rencontrer Dieu sur son terrain, c'est-à-dire le Christ, et se soumettre à ses conditions. Troisièmement, l'homme d'aujourd'hui n'éprouve pas le besoin de changer, car il n'a rien à se reprocher. Il trouve le jugement de Dieu exagéré et ne le prend pas au sérieux. Qu'a-t-on à me reprocher ? Cette question impatiente explique l'échec de l'évangélisation de notre monde moderne. La réponse de Dieu est fondamentalement la suivante. Tu te complais à vivre dans une société faite d'hommes qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui font graviter leur vie entière autour d'eux-mêmes et de ce qu'ils possèdent. Cette vie-là est un échec et il conduit fatalement à l'échec final. Elle constitue une offense à ton Créateur. Tu te crois bon parce que tu t'abstiens de faire le mal, mais as-tu fait le bien, généreusement et d'une manière désintéressée? Et si tu as fait le bien, l'as-tu fait pour ta satisfaction personnelle ou pour exprimer ta confiance en Dieu? D'autre part, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on, remarque Jésus. Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Jésus dénonce ici notre politique du moindre effort, la pratique d'une religion qui ne nous coûte rien et qui par conséquent ne vaut rien. Nous avons dit plus haut que le Christ est le nouvel Adam, dans ce sens qu'il est le chef de file d'une nouvelle génération. L'œuvre de Dieu en Jésus-Christ est de se constituer un peuple à part, tiré du monde, vivant dans le monde mais différent du monde, et ceci correspond à la description de l'Église. Déjà, en parlant aux Juifs, Jésus malmenait leur orgueil national, en comparant leur attitude à celle des païens. Et il implorait, ne leur ressemblez pas. Le même cri sort de la bouche de l'apôtre Paul lorsqu'il dit aux chrétiens, ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'a-t-il donc ce siècle? Le langage des apôtres est sans embâge. Parce qu'il a rejeté le seul vrai Dieu et méprisé ses lois, Jean déclare que le monde entier est sous la domination du malin. L'apôtre Paul parle du Dieu de ce siècle, qui obscurcit l'intelligence des hommes. Et il rappelle que l'œuvre du Christ est précisément de nous arracher à ce monde actuel et mauvais. Certains penseront que ce langage est quelque peu excessif. Mais l'est-il vraiment? Le « ne vous conformez pas au siècle présent » ne traduirait-il qu'un tempérament sectaire, exagérément inquiet? Loin de là. Car il n'y a pas que les apôtres pour s'alarmer de l'orientation de l'humanité. Il y a aussi nos sociologues. Il y a aussi la constatation pure et simple d'un grand déséquilibre. Partout la guerre, partout un grave fléchissement des fondations morales de notre civilisation. Le tableau de notre époque a déjà été brossé en termes vigoureux et justes par le prophète qu'était l'apôtre Paul. Écoutez ce qu'il écrit à Timothée. « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le tableau est saisissant de vérité. Il décrit la civilisation de la fin des temps. Il devrait nous inciter à l'action, mais à laquelle ? Une seule s'impose a priori. La soumission à la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans les Écritures. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Des instructions qui disent à l'homme d'emprunter un chemin qui n'a pas été tracé par les hommes, d'embrasser une vérité qui ne correspond pas à celle des hommes et de croire en une vie qui dépasse toute imagination humaine. Et cela pour qu'il puisse se présenter devant son Créateur, à l'heure où il l'appellera, non pas tel qu'il est, descendant du premier Adam, déchu, mais tel qu'il a été transformé par le dernier Adam, le Christ, auquel il s'identifie par la foi et l'obéissance.